direct de la Maison de la Radio avec Anna Holweck à la réalisation et Nasser Moussaoui à la technique. Bonjour à tous. À partir de 12h55, pensez l'après. Comment réparer le monde? Invitez la philosophe Corinne Peluchon qui plaide pour une transition seule à même d'ouvrir un horizon d'espérance. Mais d'abord, c'est un phénomène de librairie. Plus de 3 millions d'exemplaires vendus. Mortelle Adèle, super-héroïne de la BD Jeunesse. Avec son mauvais caractère, horrible même, diabolique, méchante et tellement drôle. On en parle avec son créateur et scénariste, Antoine Doll, alias Monsieur Tan, et sa dessinatrice, l'illustratrice Diane Lefeyer. Ils sont deux invités jusqu'à midi et demi, à l'occasion de la parution demain de Karmastrophique, 17e album de la série, aux éditions Tourbillon, et du premier roman, Mortelle Adèle. Il s'appelle Mortelle un jour, Mortelle toujours, c'est chez Bayard.
La grande table. Olivia Gesbert.
Derrière l'univers casse-cou et néanmoins girly d'Adèle, le duo Antoine Doll et Diane Lefeyer. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous l'un et l'autre. C'est pas facile à dire, mortel, il va falloir que je m'y fasse parce qu'on va beaucoup prononcer ce mot jusqu'à midi et demi, à moins de vous laisser faire vous. Comment vous la décrivez, monsieur Tan, Antoine Doll, votre héroïne Adèle?
Écoutez, c'est une héroïne de son époque, une petite fille qui s'invente, qui se réinvente avec tout le courage qu'il faut aujourd'hui pour être un enfant dans un monde d'adultes, n'hésite pas à désobéir, qui n'hésite pas à déjouer et à refuser la norme qu'on lui impose. Et donc voilà, une petite fille pleine de courage et pleine d'imagination.
Et à vous, Diane Lefeyer, comment elle parle?
Oh, c'est la petite fille que j'aurais adoré être quand j'étais moi petite, qui était tellement sage. C'est une petite fille qui est libérée, qui vit dans son époque, qui a plein d'idées. Je pense qu'il inspire beaucoup de petites filles et de petits garçons, même des grandes filles et des grands garçons, pour leur montrer que voilà, on est vivant, on a le droit de faire des choses, on peut faire des choses c'est très rafraîchissant, je trouve.
Vous m'avez quand même fait peur un instant, parce que c'est en aucun cas, Diane Lefeyer, j'imagine, la petite fille que vous auriez aimé avoir.
Non. C'est très amusant à dessiner, je m'amuse énormément. Après, si j'avais une catapulte dans mon salon, je ne sais pas. Peut-être ce serait moins... je serais peut-être moins enthousiaste, je ne sais pas.
En attendant, vous êtes quand même ses parents virtuels, puisque c'est vous qui l'avez... mise au monde aussi, cette héroïne, monsieur Tan. Vous avez passé 2 mois confinés avec elle?
Tout à fait. Avec elle et avec beaucoup de nos lecteurs, puisqu'on a proposé tous les jours des rendez-vous sur la page, Facebook, sur les réseaux sociaux de Mortelle Adèle. Donc on avait tous les jours des contacts avec nos lecteurs. On leur a proposé des activités. Je crois qu'on a reçu plus de 700 dessins en quelques semaines. Donc ça a été quelque chose de très riche et puis aussi l'occasion de s'interroger sur les projets à venir, sur toutes les surprises qu'on réserve à nos lecteurs au cours des prochains mois. Donc non, ça a été 2 mois qui ont été pas mal occupés pour Diane aussi, puisqu'elle travaille sur le prochain tome.
Le prochain tome, le prochain volume de la série, le 18e?
Alors non, en fait, on a un tome collector qui sort au mois d'octobre, qui s'appelle Mortelle Adèle et la galaxie des bizarres. Donc Diane est partie dans l'espace pendant 2 mois.
Je dessine des vaisseaux spatiaux, là. Je suis à fond sur la mécanique spatiale.
Voilà, cette Terre, il faut avouer que ces dernières semaines, on avait aussi envie de s'en échapper.
Exactement. Ouais.
Ses jeux préférés à Adèle, c'est effectivement la machine à broyer, le marteau, pour briser le cœur de ses prétendants, se débarrasser de ses amis, voire de ses parents. Autour d'elle, il y a Ajax, le chat maltraité, il y a Geoffroy, l'amoureux éconduit. Dans ce dernier tome, le 17e, Karmastrophique, elle lui dit « Je t'ai catapulté, disséqué, écrabouillé, et malgré toutes mes expériences sur toi, tu n'as jamais cessé de m'aimer ». Ça, c'est dans le volume 17, donc elle va lui prescrire une séance d'analyse chez le psy, lui qui se pensait enfin arrivé au bout de ses peines. Tout le long de ce nouvel album, Adèle, elle va essayer d'être gentille, mais elle échoue. Pourquoi on ne peut pas aller contre sa nature, Antoine Doll?
Écoutez, je pense que c'est compliqué, mais c'est aussi qu'on a tendance à croire que la désobéissance et les bêtises, c'est quelque chose de mal. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est très positif. Les principaux changements de notre société, ils se sont basés sur la désobéissance. Ils sont arrivés parce que des gens, à un moment donné, ont dit non, se sont levés. Et je trouve que c'est intéressant, quelque part, que même si elle essaye de se conformer à ce que les autres attendent d'elle, son rapport au monde reste le même et finalement reste quelque chose qui bouscule, quelque chose qui dérange, quelque chose qui explose, qui claque, qui remet en question ce qu'on croit être normal. Donc je trouve intéressant, voilà, que même si elle essaye de se conformer à la norme, finalement quelque chose en elle s'y refuse. Mmh. Et je trouve que ça dit quelque chose d'important aux enfants.
Diane, pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas la gentillesse, Mortel Adèle? Pourquoi elle n'aime pas les personnes gentilles?
Oh, c'est pas qu'elle les aime pas, c'est juste que peut-être elle les comprend pas. Elle a tellement de vitalité, elle a tellement d'énergie, qu'effectivement, être dans la norme, comme disait Antoine, ça lui convient pas. Et elle a besoin de vivre, elle a besoin d'explorer, elle a besoin d'être dynamique, d'être franche, d'être ouverte. Et peut-être que pour elle, la gentillesse, c'est peut-être un peu trop, je vais pas dire ennuyeux, mais peut-être qu'on fait moins de bêtises quand on est super gentil, quoi. Est-ce que ça la brime sur son exploration personnelle de la vie, des autres et de l'espace.
Pardon, je crois aussi qu'il y a une façon aussi de tester les limites. Vous parliez tout à l'heure de cette réplique dans le tome 17, mais quand elle dit « je t'ai broyé, je t'ai catapulté, etc. et tu es toujours là », je crois qu'il y a aussi, ça raconte aussi l'histoire d'une petite fille qui a du mal à se lier au monde extérieur, qui a du mal à comprendre, à appréhender, à attraper ce monde extérieur. Et donc, les gens gentils, quelque part, elle a besoin aussi de tester jusqu'où elle peut les entraîner pour qu'ils restent près d'elle. Et je crois qu'il y a aussi cette vulnérabilité-là chez ce personnage.
Est-ce que vous avez votre 17e album, l'un et l'autre, le Karmastrophique, sous la main?
Écoutez, je dois pouvoir l'attraper.
Je dois pouvoir l'attraper également.
Attrapez-le.
J'ai une étagère, en fait, avec tous les livres Mortel Adèle à côté de mon bureau. Donc, voilà. C'est l'étagère magique. Ça y est, je l'ai.
Voilà, avec un petit frottement, vous l'avez.
J'en ai un.
Est-ce que Diane aussi? Hop. Super. Ouvrez-le, ouais, à la première page, donc pour la première scénette, Mauvais Karma. Je vous propose à vous, Diane, d'interpréter peut-être le petit fantôme qui accompagne Mortel Adèle. Il s'appelle Magnus. C'est son fidèle compagnon, Adélie Dello, autre héroïne pour enfants. Elle a Moshu. Ce petit Magnus, qui est-il pour elle d'ailleurs? Est-ce que c'est la voix de la raison ou son petit démon?
Est-ce que ça peut pas être les deux à la fois?
Oui, c'est le double démon perché sur l'épaule droite et sur l'épaule gauche. Là, il y a le petit ange et le petit diable combinés en une seule entité qui s'appelle Magnus.
Voilà, elle, c'est une telle diablesse qu'il ne peut quand même jouer que, en tout cas, parfois l'ange de raison. Il est parfois lui-même horrifié par les mauvaises idées et les mauvaises pensées de son amie Adèle. Mauvais Karma, c'est le premier dessin, la première planche, la première scénette histoire que vous racontez dans cet album, le 17e. Vous êtes donc vous, Antoine Mortel Adèle.
Allons-y.
Et vous êtes vous, Diane, Magnus, si ça vous va, le petit
D'accord.
fantôme.
Oui, bien sûr.
Cette histoire, en fait, elle a pour but d'expliquer pourquoi Adèle, elle décide d'essayer d'être gentille dans ce tome-là. En fait, tout ne part pas d'un bon état d'esprit. Donc la première case, elle dit « J'ai décidé de mener une expérience. »
Ah, et il faut que je prépare des bandages ?
Non, non, en fait, je vais essayer de devenir gentille.
Quelle idée, mais tu t'es cogné la tête ?
Écoute, j'ai des parents adorables, un chat trop mignon, Jennifer rêve d'être ma meilleure amie, Geoffroy est toujours en train de me déclarer son amour.
Ah bah tu te rends enfin compte de la chance que t'as.
Mais pas du tout, je pense que c'est mon mauvais karma qui m'envoie toutes ces andouilles. Enfin regarde-les, je paye pour les bêtises que j'ai faites, c'est évident.
Alors là, sur la scène d'après, on voit les amis et les parents entourer tous Adèle et lui crier un joyeux anniversaire, Adèle. Allez, ferme les yeux, lui dit son père, et fais un vœu en soufflant tes bougies.
Je sais ce que je veux le plus au monde. Alors là, Adèle est surprise forcément, puisque quand elle ouvre les yeux, tout le monde a disparu et elle s'écrie « Ça a marché, enfin débarrassée de cette bande de... »
Trois petits points.
Et là, elle entend un petit bruit derrière elle. Et en fait, tout le monde
était
parti.
On était parti chercher tes cadeaux.
Ah, super.
Voilà, c'est l'ouverture de cette 17e album de Mortel
c'est
Adèle.
Ouais, c'est pas qu'elle les aime pas, mais c'est que voilà, quelque part, elle se dit que pour avoir des parents aussi fans de légumes verts et de faire ses devoirs et de tout ça, elle a forcément dû faire quelque chose de mal à un moment.
Alors, il y en a plein, plein des histoires comme ça, et c'est vrai que c'est toujours plein d'humour, notamment ce moment où elle essaye d'enfin dire à Jennifer, je crois, de mémoire, j'ai plus la planche sous les yeux, qu'elle est sa meilleure amie, mais elle finit
mais
en
qu'elle s'effondre. Ouais,
c'est tellement compliqué.
C'est
raté
par la vérité.
Et le petit détail qui fait toujours sourire, c'est le t-shirt I love Adele de cette amie qui
mais oui.
croit que quand même à mais... un moment, elle va réussir à se mettre les bonnes grâces.
Jennifer
d'Adele
espère, ouais. Ouais. Elle n'abandonne pas.
On est loin des petites filles modèles de la comtesse de Ségur ou d'autres, et pourtant vous avez pensé Adèle comme un modèle auquel des enfants pourraient s'identifier, et ça marche. Qu'est-ce qu'elle leur apporte, Adèle? Parce que la vérité, c'est qu'ils ne font pas tout ce qu'elle fait. Ils se sentent peut-être dans leur rêve autorisés à faire des bêtises, mais dans la réalité, tout le monde ne met pas son chat à la machine ou ne le catapulte pas à l'autre bout de la planète.
Non, alors il faut surtout pas, puisque à Ajax, on a pratiqué des analyses dessus. Il est fabriqué à 99% d'une matière qu'on appelle le chamallow. Et donc, il est indestructible. C'est pour ça qu'elle peut faire autant d'expériences dessus. Mais bien sûr, on adore nos animaux. Moi, j'ai mon chat, au moment où je vous parle, qui me regarde avec des yeux ronds. Donc, tout va bien de ce côté-là. Non, je pense que Adèle, ce qu'elle apporte aux enfants, c'est qu'elle leur fait confiance, surtout. Elle a confiance en leur intelligence pour comprendre ce qu'elle a à leur raconter. Moi, c'est un personnage que j'ai créé quand j'avais 14 ans, que je dessinais dans mes cahiers à l'école. C'était une époque qui était compliquée pour moi. J'étais victime de violences scolaires et donc j'avais beaucoup de mal à comprendre ce que je vivais à ce moment-là et comment reprendre un petit peu le pouvoir sur cette situation que je subissais totalement. Et c'est comme ça que j'ai créé un alter ego qui était tout mon opposé. Je suis un garçon, c'était une fille. J'étais timide, elle osait tout dire. Je me laissais agresser entre guillemets par mes camarades et elle répondait à tout le monde et quelque part elle m'a aidé à me construire, elle m'a aidé à comprendre que dans la vie parfois il y a des situations qu'on peut aborder avec un tout petit un petit pas de côté, un petit changement dans ce qu'on fait et que ça donne une toute nouvelle perspective autour de nous. Elle m'a aidé à répondre aux autres, elle m'a aidé à comprendre que j'avais aussi cette force en moi, ce caractère en moi. Et aujourd'hui, elle continue à jouer ce rôle dans la vie des enfants, leur montrer qu'on peut se construire dans un monde d'adultes. C'est pas facile d'être un enfant dans un monde d'adultes où on vous dit constamment ce que vous devez faire, ce que vous devez manger, ce que vous devez penser. Et elle leur montre que, bah, quelque part, même de là où ils se tiennent, même alors qu'on leur dit que c'est des enfants, ils ont un rôle à jouer, ils ont une empreinte à laisser sur le monde, ils ont la capacité de faire entendre une voix. Et donc ça, je pense que c'est important. Quand on a commencé à parler de ce projet, quand j'ai commencé à le matérialiser avec un éditeur, les raisons pour lesquelles j'ai voulu le faire, d'une, c'était pour montrer aux jeunes filles qu'on peut devenir tout ce qu'on veut. On n'est pas cantonné, comme le disent beaucoup de livres, à aimer les petits chats, la danse, les poneys, avoir une bande de copines. On peut, au contraire, fabriquer un zombie, rêver de devenir présidente de la galaxie comme Adèle. On peut se réinventer. On peut être ce qu'on veut, en vérité. Et puis montrer aux petits garçons qu'on peut avoir une fille comme héroïne aussi. Ça, c'était important pour nous. Leur montrer qu'on peut aussi grandir en se construisant avec l'altérité, avec des modèles différents de ce qu'on attend de nous et qu'on peut s'enrichir comme ça. Voilà. Je pense que c'est tout ce melting pot, tout ce brassage d'intention, de sincérité aussi dans la démarche qu'on a aujourd'hui qui fait que les enfants peut-être se reconnaissent en Adèle et vibrent avec elle et la comprennent et se comprennent à travers elle.
La littérature jeunesse, un terrain de jeu fantastique pour le réalisateur et écrivain Christophe Honoré aussi, parce que altérité, parce que confrontation. On l'écoute.
La littérature pour enfants, c'est une discipline vraiment à part pour le coup. Et c'est pour ça que je ne l'ai jamais abandonnée. Enfin, je trouve que c'est un terrain de jeu en tant qu'écrivain qui est réjouissant. J'ai toujours écrit en fait pour la jeunesse d'une manière très très personnelle. J'ai toujours, et peut-être par moments d'une manière un peu provocatrice, bien fait comprendre que les livres pour enfants n'étaient pas des doudous. C'est pas des, je sais pas comment dire ça, c'est pas des écharpes qu'on met aux enfants pour qu'ils soient mieux dans la vie. Non, c'est des rencontres avec l'étranger. Et c'est ce qu'on adore quand on est enfant. C'est ce qu'on cherche. On veut rencontrer l'adulte qui n'est pas de sa famille et que de cette rencontre, en fait, on va pouvoir s'ouvrir, en fait, à autre chose, à un autre monde. Et cette idée que l'adulte n'est pas forcément prédateur pour l'enfant, mais qu'au contraire, l'étranger, l'adulte étranger pour un enfant est essentiel dans sa construction, ça fait partie pour moi des piliers, on va dire, en tout cas, de mon, de mon implication dans la littérature jeunesse.
Et pour vous, Diane Lefeyère, qu'est-ce qui vous semble essentiel dans la construction d'un enfant? Parce qu'il y a une responsabilité à écrire pour eux, à dessiner pour eux, à rentrer dans leurs imaginaires.
Alors moi j'aime nourrir, hein, j'aime quand je dessine, quand je raconte quelque chose par le dessin, je me remets moi dans mon enfance, hein, je me rappelle moi quand j'étais enfant, quand tout ce que j'ai pu lire. Moi j'étais une lectrice vorace, hein, quand j'étais petite, et toujours maintenant d'ailleurs, mais tout mon imaginaire, tout ce qui fait, tout ce qui m'a construite, on va dire, sur mon chemin de l'illustratrice. Ça vient de tous les livres que j'ai lus, que j'ai dévorés, dont j'ai recopié les pages quand j'étais enfant. Donc pour moi, c'est très important dans mon métier d'aujourd'hui, dans ce que je fais, dans le dessin d'Adèle, de faire passer plein de petites choses, de faire passer. Alors il y a des choses amusantes, hein, il y a de l'humour, il y a des petits gags cachés, mais c'est aussi montrer les choses telles qu'elles sont. C'est être juste dans les expressions, c'est essayer d'être le plus pertinente en fait dans le dessin, dans ce que je vais raconter. Parce que en plus un enfant, il va l'emmener avec lui son histoire préférée, son dessin préféré, c'est quelque chose qui va l'accompagner toute sa vie. Moi, je vois les BD que je lisais quand j'étais enfant, et j'en ai quelques-unes qui sont vraiment des favoris pour moi, hein. C'est vraiment des choses maintenant auxquelles je fais moi référence dans mon dessin. Donc c'est vraiment, je pense, une continuité, une sorte de transmission à travers le dessin, à travers les âges de ce qui nous a touchés, de ce qui nous a accompagnés et de ce qu'on veut transmettre aux futures générations.
Je crois qu'il y a un troisième invité à cet entretien, hein, Diane Lefeyère, derrière vous, qui a peut-être envie de prendre la parole. Il n'y a pas un troisième invité? Il n'y a pas un troisième invité derrière vous?
C'est Magnus.
C'est Magnus, oui, tout à fait.
Qui vous souffle les réponses. Antoine Dole, sur cette idée du livre, comme l'évoquait Christophe Honoré, du livre pour enfants qui n'est pas un doudou, qui n'est pas forcément une écharpe que l'on va serrer fort dans ses bras et dans laquelle on va se blottir. Vous pensez qu'effectivement, c'est important cette idée de créer de la réaction, voire un peu de la confrontation aussi pour ces personnalités en devenir?
Écoutez, moi, c'est le nœud de tout ce qui habite ma création depuis le premier livre que j'ai publié en 2008. J'ai toujours considéré que la littérature jeunesse, elle devait provoquer quelque chose. On a souvent tendance à se confronter, nous, en tant qu'auteurs, à ce malentendu qui règne autour de la littérature jeunesse, qui est que la littérature jeunesse, elle doit apprendre quelque chose. Parce qu'on est accolé à presque des manuels en permanence, et donc forcément, les prescripteurs se disent souvent, mais ce livre, si les enfants lisent ça, ils vont avoir envie de faire ça, ils vont reproduire ça. Et... Mais non, les livres, c'est pas des manuels, c'est de la création, c'est de la vie, c'est aussi le seul outil parfois qui fait rentrer des idées nouvelles à la maison. Moi, je pense toujours à ces enfants qui sont dans des familles avec des parents peut-être moins ouverts, moins tolérants, moins lumineux, et qui, grâce au livre, découvrent la richesse aussi du monde dans lequel ils vont habiter. Donc c'est aussi notre responsabilité d'auteur que de provoquer ces rencontres, provoquer ces chocs, provoquer ces bouleversements dans l'esprit des lecteurs et dans la rencontre qu'ils vont faire du monde qu'on leur propose. Je trouve que c'est vraiment la magie de notre métier.
Est-ce que la littérature déborde parfois de petites héroïnes trop gentilles ou trop conformes à ce que l'on attend d'elles pour vous?
Mais je pense qu'en fait, les enfants sont plus intelligents qu'on ne le pense. Je pense qu'on a tendance à croire qu'en leur proposant des héros consensuels, il va se passer quelque chose en eux de plus consensuel aussi. Mais je pense qu'en fait, les enfants savent très bien ce qui les nourrit. Ils savent de quoi ils ont besoin, ils savent de quelles émotions ils ont besoin pour grandir, ils savent qu'ils ont besoin de chocs, ils savent qu'ils ont besoin de bouleversements, de questions, ils ont besoin de choses un peu étranges. Et c'est aussi ce qui fait qu'Adèle, c'est une héroïne aujourd'hui qui les inspire, c'est qu'elle leur dit « mais tu as le droit d'être bizarre, tu as le droit d'être différent, ouais. Tu as le droit de te sentir hors des clous, et c'est pas grave, et c'est très bien, et c'est cette singularité-là, cette unicité-là que tu portes en toi qui va faire que tu vas devenir quelqu'un d'important pour ce monde. Et c'est ça qu'il faut célébrer.
Adèle, elle a une tête énorme, elle a une grande bouche, elle a des grands yeux, elle a un petit corps tel que vous l'avez dit.
Et dis donc,
Diane Lefeyère. Et là aussi, elle a un faux air de Mafalda, c'est vrai, hein, son ancêtre argentine, qui nous ramène à une décennie un petit peu plus ancienne, celle des 70 de mémoire. L'expression la plus courante sur son visage, celle que vous dessinez le plus souvent, Diane Lefeyer, a feuilleté vos albums, je dirais que c'est le froncement de sourcils. C'est ça, vous confirmez?
C'est ça, oui. Elle est toujours un peu, un peu circonspecte, un petit peu. Elle est sur ce qui va se passer. Comme elle est toujours très décidée, c'est un froncement de sourcils volontaire, on va dire.
Oui, et puis elle a toujours des idées. Elle a des idées derrière la tête. On le sent bien. Et avec ce froncement de sourcils, elle est en train de les faire revenir sur le devant de sa conscience et se demander si elle va les mettre en pratique ou pas. Invité avec nous jusqu'à 12h30, le créateur de Mortel Adèle et scénariste, auteur pour de cette série de littérature jeunesse. On va en parler bientôt. Un roman aussi, Antoine Dole, alias Monsieur Tan, et la dessinatrice, illustratrice Diane Lefeyer. Avec Angèle, classée par le magazine Forbes parmi les 30 personnalités les plus influentes de l'année, une autre héroïne jeunesse de la scène musicale, c'est Pomme, auteure, interprète, musicienne lyonnaise. Elle a 24 ans, découverte cette année avec le titre Anxiété et son album Les Failles, sacré meilleur album révélation lors de la 35e cérémonie des Victoires de la musique. Pendant le confinement, elle a sorti un titre, un EP, comme on dit, éphémère, créé donc pour ce moment. Elle aurait dû être aux Nuits de Fourvière en ouverture le 5 juin. Le concert n'avait pu avoir lieu pour cause de crise sanitaire. Prochain concert prévu et espéré à Brest le 8 octobre. I feel the danger. I don't feel good. De Pomme accompagnée de sa guitare, un titre créé spécialement pendant le confinement. Pomme sera donc en concert le 8 octobre prochain, si tout va bien, à Brest et à Paris, à l'Olympia, le 23 novembre. France Culture, il est 12h23.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Lewis Carroll a écrit et illustré lui-même Alice au Pays des Merveilles, une association pionnière, annonciatrice. Antoine Dole, quels sont ces contes pour enfants qui vous ont fait, vous, grandir ?
Il y a des héroïnes, déjà, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Mafalda, et des personnages aussi, Mercredi Adams, Lénore, beaucoup de personnages du panthéon du comics et de la BD américaine aussi, Mercredi Adams avec la famille Adams. Je crois beaucoup la littérature de Roald Dahl aussi. Moi, j'étais pas du tout lecteur, contrairement à Diane, quand j'étais enfant. Et un jour, ma sœur m'a passé Sacrée Sorcière de Roald Dahl. Et c'est vrai que d'un coup, on découvre que la littérature, un livre, moi, je pensais que tous les livres, c'était des auteurs très vieux et très morts qui les écrivaient. Et d'un coup, je découvrais un récit où on pouvait à la fois avoir peur, rigoler, trembler, frissonner, et puis voyager, et puis se poser des questions. Et d'un coup, les livres devenaient cette espèce de boîte magique remplie d'émotions. Et c'est ce qui m'a vraiment, moi, donné le déclic pour écrire des livres par la suite, cette envie de créer des émotions, à la fois pour les petits et les grands, des émotions variées. qui m'ont permis comme ça d'explorer différents univers.
À propos de Roald Dahl, Sacrée Sorcière, qui a été magnifiquement revisitée, illustrée par Pénélope Pagieux l'an dernier. Elle a d'ailleurs remporté le prix de la BD internationale pour cet album. Pour Les Culottés, c'était je crois chez Gallimard. Le prix Eisner, qui est un des plus prestigieux prix de la bande dessinée américain, qui normalement est décerné lors du Comic-Con de San Diego, annulé cette année pour cause d'épidémie, va néanmoins être rendu. Et il paraît, selon Livre Hebdo, qu'il y a beaucoup d'auteurs français et francophones en compétition, en sélection encore cette année, dont Lewis Trondheim, qu'on aime beaucoup ici, Timothée de Fombelle, Léa Mazet ou encore Émilie Plateau. Sacrée Sorcière, pas facile d'arriver après Quentin Blake, l'illustrateur attitré des romans de Roald Dahl, à la question qu'attendait-il de cette collaboration. Il avait répondu, le dessinateur britannique de plus de 80 ans maintenant, de l'espièglerie, des bêtises. Et il disait que Roald Dahl était beaucoup plus méchant que lui, que il demandait aussi beaucoup d'illustrations pour une même histoire. C'est pas facile, Diane Lefeyer, d'entrer aussi dans l'imagination, dans l'histoire des autres. C'est ce que vous avez fait en vous adaptant aussi à Monsieur Tan. Vous aimez ça, dessiner aussi les histoires des autres, ou vous avez envie maintenant, peut-être bientôt, un jour déjà, de recommencer à illustrer vos propres histoires, votre univers à vous?
Alors, moi, je suis, mes histoires, elles passent vraiment, vraiment par le dessin. C'est-à-dire que Antoine, on en a parlé plusieurs fois tous les deux, mais c'est vrai que quand on a des idées, moi, elles se manifestent en images et chez lui, elles se manifestent par les mots. Moi, j'adore en fait prendre les textes d'Antoine. Quand je les reçois, c'est ce qu'on appelle un gaufrier, c'est une page blanche avec les cases, le texte qui est écrit. Et pour moi, mais c'est un terrain de jeu incroyable parce que je prends les mots que lui a écrits, les histoires que lui a composées, et je me dis maintenant c'est à moi de faire ce travail-là, de dire bon ok, bah, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit encore plus drôle, qu'est-ce que je vais rajouter de mon humour, de ce que je veux raconter en plus, qu'est-ce que je vais pouvoir injecter en plus, voilà, dans le texte, dans l'histoire, avec l'image, que l'image soit au service du texte et qu'elle vienne appuyer et renforcer la partie humoristique et le gag en fait. Et moi j'aime ça beaucoup. Moi je produis un peu pour moi, mais pas. J'ai beaucoup d'images dans ma tête, mais c'est vrai qu'elles sont dans ma tête. Je les produis pas vraiment on va dire en concret, en solide, mais pour moi, c'est toujours un grand bonheur de recevoir des textes et de dire ok, maintenant c'est à moi de faire ma magie quoi. Qu'est-ce que je vais envoyer, qu'est-ce que je vais produire sur cette histoire pour que à la fin on ait une conjugaison texte-image qui soit la meilleure possible quoi, et que quand un enfant va prendre Karmastrophique demain dans ses mains et va tomber sur une page de BD puis il va exploser de rire en disant mais c'est tellement drôle. Moi quand j'étais enfant, et toujours d'ailleurs, mais j'ai une passion pour Picsou, et tous les mercredis j'allais m'acheter Picsou Magazine, et dans les BD de Picsou Magazine il y avait les BD de Don Rosa, et les BD de Don Rosa c'est des summums en fait de la BD, entre ça conjugue humour, aventure, c'est drôle, c'est très bien fait, et pour moi c'est quelque chose que j'ai en tête. Ce bonheur absolu de prendre un livre, de le découvrir et de le dévorer, parce qu'on sait qu'en plus ça va être fantastique ce qu'on va découvrir, et que les images vont me faire rire, et que le texte va me faire rire, et de voir ça sur un enfant qui explose de rire en lisant une page d'un tome de Mortel Adèle, pour moi c'est un ravissement.
Dans le roman, Adèle raconte sa nouvelle invention, un détecteur de mortalité pour pouvoir trouver une personne aussi mortelle qu'elle. Le roman vient de sortir, ou sort demain, je crois, en librairie. Mortel un jour, mortel toujours, c'est chez Bayard. Et il prend donc la suite, s'inscrit dans la continuité de cette série d'albums que vous co-signez. Karmastrophique, c'est le 17e et le dernier, sorti aux éditions Tourbillon. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci.
Je signale juste aux auditeurs qu'ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, réécouter les 8 heures d'Harry Potter qui ont été diffusées en 2x4 heures, samedi et dimanche, sur France Culture, dans la voix de Bernard Giraudot. Harry, c'est le sorcier le plus célèbre, lui, de la stratosphère aujourd'hui. Et c'est une performance d'acteur. Il tenait tous les rôles, Bernard Giraudot. C'était il y a 20 ans. Une coproduction France Culture avec les éditions Gallimard Jeunesse qui se sont associées pour vous faire revivre cet événement radiophonique. Vous pouvez réécouter ce Harry Potter tome 1 à l'école des des sorciers lu par Bernard Giraudot jusqu'à ce soir seulement sur franceculture.fr.